Enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Oui, bonjour Aline Choulet.
Aujourd'hui, vous vous penchez sur la guerre civile en Libye et ses conséquences politiques.
Voilà, avec notre invité Ali Ben Saad, qui est professeur à l'Institut français de géopolitique, Paris 8, qui revient d'ailleurs de Libye, il a observé la bataille de Sirte, et qui est géographe. Alors, 5 ans d'affrontements, plusieurs gouvernements et parlements, un mouvement islamiste détribué aux allégeances complexes, bref, un pays profondément déchiré, et puis, il faut le rappeler aussi, un gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par la communauté internationale. Alors, quelle est la situation sur le terrain, à la fois sur le plan militaire, la violence armée, et sur le plan politique, notamment depuis que le général Haftar s'est emparé la semaine dernière de champs pétroliers. C'est une entreprise qui a été aussitôt condamnée par les États-Unis, par la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Quels sont les projets des principaux acteurs? Quelles puissances régionales ont un réel pouvoir ou d'influence ou de perturbation? Quel scénario privilégié? Et on imagine beaucoup de questions, donc on revient sur les événements de la semaine dernière. Ali Ben Saad.
Alors justement, la Libye, elle a connu la semaine dernière une brusque aggravation des tensions avec la prise de contrôle par le général Haftar des principaux terminaux pétroliers de la région de Ras Lanouf. Et je pense que justement cet événement, il traduit bien un peu les lignes de fracture et de tensions qui divisent la Libye. Alors l'enjeu, ce n'est pas tant en soi le pétrole, parce que ce pétrole, il échappe de toute façon aux acteurs qui se disputent le pouvoir. Il faut savoir que la compagnie pétrolière, tout comme la banque centrale, ont une autonomie grâce à l'appui des Occidentaux, donc une autonomie qui les met à l'abri des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir. Et ce n'est pas parce qu'il a pu prendre militairement le contrôle des terminaux que Haftar pourra vendre le pétrole. Donc c'est pas ça qui est inquiétant en soi. Ce qui est inquiétant, c'est que cette prise de contrôle de cet élément symbolique et stratégique, elle avait en fait pour finalité de casser un processus de réconciliation, un processus qui par ailleurs mettait à mal les ambitions de pouvoir du général et un peu l'acculer en lui ôtant l'argument de l'absence d'État dont il prétendait compenser l'absence. En fait, depuis plus d'un an et demi, on était entré dans un cercle vertueux avec un processus de réconciliation initié d'ailleurs à la base sous la pression des communautés qui étaient lassées par la guerre et qui ont fait pression sur les acteurs armés. Donc il faut rappeler que en fait, depuis 2014, on a une guerre qui a opposé en gros deux camps, le bloc politico-militaire appelé Fajr, qu'on peut traduire en français par OB. Alors ce bloc politico-militaire avait été mis en minorité par les élections, mais se réclamait de la légitimité révolutionnaire. C'était un assemblage hétéroclite qui allait des tendances islamistes, frères musulmans ou non, jusqu'à l'ancienne opposition en exil laïque ou la minorité laïque, et ils se regroupaient autour de bastions révolutionnaires qui se légitimaient surtout de leur rôle déterminant dans la chute du régime de Kadhafi, comme les villes de Misrata ou Zouara. Alors l'autre bloc politico-militaire qui s'appelait Karama, Dignité, qui est encore plus composite que le premier, se regroupait autour de la majorité d'un parlement élu en 2014, mais mal élu quand même, parce qu'il y avait la non-participation, volontaire ou non, d'une majorité du corps électoral. Donc je disais qu'il était encore plus composite, parce qu'il était composé d'anciennes élites, reconverties parfois à la révolution, parfois non, et qui sont revenues avec force sur la scène politique nationale. Il était composé aussi de la résurgence de partisans de l'ancien régime, de tribus qui lui étaient fidèles, de groupes fédéralistes, ou de tendances libérales qui étaient opposées à l'ancien régime mais inquiètes de la montée de l'islamisme. Ensuite, bien sûr, chacun des deux camps est divisé en factions, principalement sur la base d'intérêts locaux, qui s'enchevêtrent avec des fractures ethniques, régionales, etc.
Quel rôle, Ali Ben Saad, justement, quel rôle d'un mot, parce que c'est toujours une chose compliquée pour le non-spécialiste et à l'égard de la Libye, quel rôle accordé au ce qu'on appelle le facteur tribal, et les tribus ont été souvent instrumentalisées par l'ancien régime Kadhafi. Leur allégeance, elles font allégeance à elles-mêmes ou à quelqu'un d'autre?
C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai qu'il y a un rôle déterminant des acteurs locaux en Libye par le fait que le pouvoir lui-même avait procédé à une véritable fragmentation du pays, et déjà même au temps de l'ancien régime, celui-ci avait été déstabilisé par, si je peux dire, ces loyautés segmentées qu'il avait instituées et qui étaient rentrées en concurrence entre elles-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment de tribus ? Oui, dans une partie intérieure minoritaire de la Libye, il y avait encore persistance du fait tribal, mais le plus souvent dans une population qui était à écrasante majorité urbaine, le plus souvent urbaine de plusieurs deux ou trois générations. En fait, l'élément tribal, si je peux dire, a été un élément identitaire imposé par le pouvoir et que les élites aussi instrumentaient à leur tour dans les négociations avec le pouvoir. Mais si vous prenez des acteurs importants du champ politique libyen actuellement, Misrata par exemple, est une des plus vieilles villes urbaine du monde méditerranéen, du monde arabo-musulman, avec des élites ottomanes, tcherkesses, etc., etc. Mais il est vrai que, en fait, l'ancien pouvoir a poussé au localisme. L'insurrection aussi qui s'est déroulée, si je peux dire, de façon très locale, fragmentaire, non coordonnée, et l'intervention militaire occidentale n'a pas permis, si je peux dire, que se réalise justement un processus de regroupement sur une base nationale, etc. Et maintenant, les différents acteurs instrumentent ce fait pour se rallier des composantes de ce champ politique.
Des pays extérieurs à la région comme les États-Unis ou la Russie, est-ce qu'ils jouent un rôle significatif, important ou non ?
Je dirais jusque-là, ce qui aggrave la tension en Libye, ce sont plutôt les puissances régionales. Qui s'affrontent. La Russie pourrait devenir effectivement un nouvel acteur important, puisque le général Haftar, par le biais justement du régime égyptien et de Sisi, a tenté donc de se rapprocher de Moscou, puisqu'il a fait un voyage là-bas, tout de suite rattrapé par le représentant de l'autre gouvernement de Tripoli. Et effectivement, on pourrait penser que la Russie pourrait jouer la même carte qu'en Égypte, donc jouer avec l'allié de l'Égypte et instrumentaliser aussi, si je peux dire, la légitimité d'une lutte contre le radicalisme islamiste pour reprendre pied en Libye, parce que c'était un acteur important pendant la guerre froide en Libye. Mais je crois que ce qui aggrave les tensions, ce sont plutôt les ingérences des puissances régionales. On a bien sûr l'Égypte et les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui soutiennent donc ce camp de l'Est, ce camp de Karama, qui soutient donc le général Haftar. En face, nous avons donc des puissances régionales comme le Qatar, qui appuie essentiellement des tendances islamistes. On a la Turquie qui joue un rôle important et qui a, si je peux dire, de fer au feu, le fer politique qui est l'appui au groupe islamiste, mais qui dispose d'un grand relais ethnique dans une ville comme Misrata. Il y a le tiers sont d'ascendance ottomane, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une présence ottomane très forte et que dont sont nés ce mélange qu'on appelle Koulougli. Il y a aussi les anciens tcherkesses, anciens esclaves qui ont formé les armées prétoriennes, etc., et qui d'ailleurs jouent un grand rôle actuellement militaire sur ce plan-là. Alors interviennent aussi d'autres puissances pourtant relativement faibles, mais qui trouvent un champ. Ben, nous avons le Tchad et le Soudan grâce au Toubou, parce qu'il y a une minorité, la seule minorité négro-africaine, que sont les Toubous, qui sont présents en Libye, qui sont libyens, mais grâce actuellement à l'instabilité, se renforcent par un afflux de migrants, etc., et qui jouent un rôle dans cette guerre, et les Toubous actuellement sont des alliés du général Haftar. Ce qui explique son dernier voyage au Tchad, c'est pas tant le Tchad en tant que pays, que parce que c'est le pays originaire des Toubous, dont il veut conserver l'appui massif dans la guerre qu'il oppose au groupe de l'Ouest.
Voilà, donc Ali Ben Saad, géographe, enseignant-chercheur à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, également professeur à Paris 8. Il faudrait aussi parler du rôle de l'Algérie et de la Turquie, ce sera pour plus tard. Et puis nos camarades, demain matin à 11h de Culture Monde, reviendront sur la Libye et le sous-titre ou le titre « La fourmilière djihadiste ».
Quant à vous Thierry Garcin, demain vous interrogerez l'espace du désert saharien.
Oui, c'est un espace de plus en plus jointif avec notre invité Bruno Lecoquière, qui est professeur professeur de géographie à l'Université du Havre, et bien sûr franceculture.fr.
Merci à vous. 6h56 sur France Culture.